Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Privés de sorties scolaires pendant des mois à cause de la crise sanitaire, les classes sont de retour au Parc des Oiseaux. Nous avons retrouvé des quatrièmes du collège Yvon Moranda.
Le grand oral, c'est la nouveauté du bac édition 2021. Vous entendrez les retours de lycéens et d'un enseignant.
On parlera aussi de Prends ton pied, un événement dédié à la mobilité en zone rurale.
Et tout de suite, c'est l'actualité en bref.
Bourque, en bref.
La liste de Laurent Wauquiez élu au second tour.
Les régionales se sont terminées dimanche dernier et toujours avec une forte abstention, seul un tiers des habitants de la région a voté. La liste de Laurent Wauquiez, le président sortant de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a été élu avec plus de 55% des suffrages exprimés. Il était face à l'écologiste Fabienne Grébert qui a remporté près de 38% des suffrages. André Cotarac, le candidat du Rassemblement national, a lui obtenu environ 11%.
La droite et le centre très largement en tête dans le département.
Du côté des départementales, Jean de Guéry et ses colistiers sont en tête dans 21 des 23 cantons de l'Ain. À Bourg-en-Bresse, les scores étaient serrés avec la gauche, mais c'est quand même la droite avec Pierre Lurin et Hélène Cédillot pour Bourg 2 qui sont reconduits. Et pour Bourg 1, Hélène Bertrand Maréchal et Alexis Morand. La gauche remporte donc seulement les cantons de Valseronne et Vona avec les binômes Larmanja-Ollier et Greffé-Louis réélus.
Le grand oral du bac, c'était la semaine dernière. Bonjour Alice.
Bonjour à tous. Et oui, depuis le 21 juin et jusqu'au vendredi 2 juillet, les élèves de terminale passent la dernière épreuve du baccalauréat, le grand oral. Le grand oral est une nouvelle épreuve instaurée par Jean-Michel Blanquer lors de la réforme du bac. Coefficient 14, elle est redoutée par de nombreux élèves. Mais alors comment se déroule cette épreuve? Maïwenn, élève au lycée Lalande de Bourg-en-Bresse où nous nous sommes rendus.
Eh bien, lorsqu'on arrive, on a 20 minutes de préparation pour faire un brouillon et éventuellement donner un support à nos professeurs. Ensuite, on a 5 minutes de passage sur notre sujet, puis 10 minutes de questions et enfin 5 minutes sur notre projet d'orientation.
Louane, Juliette et Lisa, elles aussi élèves à Lalande, sortent juste du grand oral. Elles nous donnent leur ressenti.
Comment ça s'est passé le grand oral pour vous?
Moi, ça s'est super bien passé. Je suis tombée sur la question que je voulais et le jury, c'était super sympa.
Ouais, pareil, ça s'est hyper bien passé. C'est exactement la question que je voulais et ça s'est plutôt bien passé. Le jury était assez bienveillant, donc c'était vraiment sympa.
Et alors, quel est votre ressenti sur ce grand oral? Est-ce que vous vous étiez sentie bien préparée pour passer cette épreuve?
Moi, j'étais bien préparée en SES parce que le prof était vachement derrière nous. Par contre, en mathématiques, enfin, avec le confinement et tout, j'avais déjà un peu des difficultés. Du coup, arrivé au grand oral, j'étais prête, mais beaucoup moins que la SES. En plus, notre prof, il nous a pas trop aidés, donc voilà.
Pareil, en SES, j'étais dans la même classe, donc notre prof a été vachement derrière nous, donc elle nous a vachement aidés. Mais en littérature anglaise, j'ai eu moins de suivi, mais après, il y a quand même eu un minimum de suivi malgré le contexte sanitaire.
Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle modalité d'épreuve par rapport à l'ancien bac? Est-ce que tu es déçue ou pour toi c'est plutôt un bon exercice?
Je trouve que pour le grand oral, c'est un assez bon exercice pour nous préparer aux études supérieures. Et surtout que c'est une question qu'on peut choisir nous-mêmes, donc c'est souvent des sujets qui nous intéressent, pour lesquels on a un intérêt. Je trouve que c'est mieux qu'un sujet imposé. J'ai l'impression que ça peut nous aider à développer notre curiosité, etc.
Moi je trouve que le grand oral c'est bien parce que ça nous permet d'avoir une approche plus personnelle du bac parce que c'est nous qui préparons nos sujets donc ça vient plus de nous-mêmes, on se force plus à travailler et on aime mieux travailler j'ai l'impression donc je trouve que c'est une bonne épreuve.
Rénal Perragine est professeur d'histoire-géographie au lycée et jury du grand oral. Il est plus mitigé sur cette nouvelle épreuve.
À titre personnel, je trouve que à la fois c'est intéressant parce que c'est aussi un moyen quand même de tisser un lien avec eux, un lien direct avec eux entre les examinateurs et le candidat. D'un autre côté, ça favorise le maintien, voire l'accroissement des inégalités entre des élèves qui présentent bien et d'autres qui ont plus de difficultés à dialoguer dans un cadre scolaire.
Du coup, est-ce que vous pensez que les élèves ont bien été préparés cette année au grand oral, avec notamment le Covid et ces conditions un peu particulières d'enseignement ?
Clairement, on n'a pas eu assez de temps pour formuler des problématiques qui étaient précises. On a eu aussi des changements ministériaux de dernière minute. Là, les derniers changements sont intervenus en mai, fin mai. Donc on a quand même des élèves qui sont stressés et qui parfois ont une argumentation qui repose sur des questions qui sont préparées, j'allais dire, à la dernière minute, quoi. Donc mal préparées.
La tenue de l'édition 2021 de ce grand oral a d'ailleurs été largement contestée. Le principal syndicat des enseignants du secondaire, le SNES-FSU, avait même demandé son annulation au regard du contexte sanitaire. Et cette semaine, c'est la dernière semaine d'épreuve, alors bon courage à tous ceux qui ne sont pas encore passés.
Merci Alice.
Radio B.
Radio B.
Les salariés de l'ADAPEI de l'Ain sont en grève.
Cette association accompagne les personnes en situation de handicap mental. Elle est en grève reconductible cette semaine. Une manifestation est prévue ce mardi depuis la préfecture. Le cortège ira jusqu'à l'Agence régionale de santé. Et parmi leurs revendications, des revalorisations salariales promises lors du Ségur de la santé et de meilleures conditions de travail.
L'agglo de Bourg signe un accord pour soutenir des projets de l'économie sociale et solidaire.
L'ESS, l'économie sociale et solidaire, c'est ce que soutient Ronald Pia, un incubateur de projets basé à Lyon. Un partenariat avec Grand Bourg Agglomération, il a sélectionné 6 projets pour les accompagner dans leur réalisation. On écoute les candidats sélectionnés.
Claire Lafont, donc je suis en binôme avec Guillaumine Trégard. Et nous avons créé l'association Cavale Arborescence. Cette association a pour but de créer un écolieu ressources pour permettre l'éducation à l'environnement et dans un deuxième temps pour tout ce qui est médiation animale, donc pour les personnes handicapées ou qui ont des problèmes relationnels. Et un lieu de répit aussi pour les personnes aidantes, justement, de personnes handicapées.
Je m'appelle Soélie, j'ai 38 ans et je suis mère isolée d'un petit garçon de 4 ans. Porteuse donc d'un projet sur ce sujet d'accompagnement et de soutien aux parents solos.
Je m'appelle Stéphanie et j'habite sur la commune de Courmangou. Mon projet, c'est la création d'un tiers-lieu donc sur la commune de Courmangou pour créer un lieu d'ancrage et de rencontre sur le territoire pour répondre à une problématique locale qui est notamment l'absence de services de proximité.
Johan Guérin, donc je travaille en binôme avec Lise Giraudy sur le projet Impulsion TSA, donc TSA, trouble du spectre autistique. L'idée, c'est de faire un complexe dédié aux soins et à l'éducation, de libérer du temps aux parents. Donc voilà, c'est de travailler là-dessus. Voilà.
Et donc, qu'est-ce que vous attendez de ce projet, Ronald Pia ?
De nous aider à nous lancer correctement, de viser le bon lancement, pour avoir les bons interlocuteurs, pour se donner toutes les chances en fait, d'aller au bout.
Alors moi, l'accompagnement me permet clairement de cadrer le projet, de le construire, parce qu'aujourd'hui, je porte le projet toute seule.
Alors grâce à Ronald Pia, on va pouvoir peaufiner ce projet. Ils vont pouvoir nous donner des outils, non seulement d'un point de vue marketing, économique, gestion de projet, en fait, voilà.
Et il y a aussi Xavier, son atelier pour partager des outils entre artisans, et Séverine qui veut créer une épicerie itinérante pour les zones rurales. Les 6 projets vont être suivis par Ronald Pia jusqu'en février pour être concrétisés.
Je suis Arthur Joliveau, le responsable de l'incubateur Ronald Pia pour le Grand Bourg-en-Bresse. Ronald Pia se donne pour mission d'accompagner les entrepreneurs des territoires qui cherche des solutions pour répondre aux problèmes locaux. Et du coup, Ronald Pia propose différents types de programmes d'accompagnement pour accompagner ces porteurs de projets en fonction de l'étape d'avancement de leur projet et les aider à mûrir leur projet, les implanter sur le territoire et du coup, in fine, apporter des réponses aux problèmes locaux.
Et donc là, à Bourg-en-Bresse, il y avait une demande. Comment ça s'est passé ?
Alors, L'arrivée de Ronalpia aujourd'hui à Bourg-en-Bresse, c'est le fruit d'une année d'études du territoire pour identifier si, en effet, il y a une demande des porteurs de projets de l'ESS en accompagnement. Donc pour s'assurer que quand on lance un appel à projet, il y a un nombre de candidatures suffisant pour créer une promotion de 6 personnes et de 6 projets qui tiennent la route. Mais on était déjà présent sur le territoire avec des formats d'accompagnement plus courts, sur 2 jours, à Ambérieu, en Bugey, notamment avec le Lab 01. Et puis, il y avait déjà des porteurs de projets de Bourg-en-Bresse qui étaient accompagnés par Ronalpia, mais à l'incubateur de Lyon, depuis quelques années. Et donc, on voyait année après année qu'il y avait de plus en plus de personnes de Bourg-en-Bresse qui postulaient à Lyon. Et donc, on a décidé à un moment que le seuil critique était atteint et qu'on pouvait proposer à la communauté d'agglomération d'avoir son propre incubateur et de proposer directement sur place cet accompagnement.
Et l'accompagnement a commencé le 1er juin. Il y a 15 journées de formation collective réparties sur 9 mois. Grand Bourg Agglomération donne 1500 euros par projet pour bénéficier de l'accompagnement de Ronalpia.
Emmanuelle Merle, vice-présidente au Grand Bourg Agglomération, en charge de l'emploi, l'insertion, l'économie sociale et solidaire. Notre rôle derrière tout ça, c'est d'être en soutien, un soutien financier auprès de Ronalpia pour permettre ces accompagnements. Donc là, on finit aujourd'hui l'étape de sélection. Hein, 6 porteurs de projets sont là. Et donc, on accompagne chaque projet financièrement, mais par le biais de Ronalpia. On n'accompagne pas les projets indépendamment, c'est pas ça. Hein. C'est Ronalpia qui a l'aide pour pouvoir faire l'accompagnement.
Alors rendez-vous en 2022 pour voir l'avancée des projets et on l'espère, leur concrétisation.
Monsieur le Président du Brésil, ce matin n'est pas un matin comme les autres. Nous avons écouté une chanson d'un artiste français intitulée « Aux arbres citoyens ». Il nous a alors semblé important de vous écrire. Effectivement, les arbres et vous avez une longue histoire. Et si on se réfère aux données satellites, et les satellites ne mentent pas, ils continuent de nous décrire une situation préoccupante, alarmante. L'implacable réalité nous saute aux yeux. La déforestation amazonienne s'accélère au Brésil. Il est donc urgent que vous preniez des mesures pour éliminer la déforestation que vous encouragez. De notre côté, nous avons travaillé sur le thème de la biodiversité. La biodiversité, ce terme vous parle-t-il ?
Un extrait de la lettre écrite par la classe de 3e prépa pro du lycée agricole Les Sardières à Jair Bolsonaro, président du Brésil. Cette dernière, traduite en anglais, sera postée dans les prochains jours.
Et cette lettre, c'est une action qui a été choisie par les élèves pour parler de la biodiversité. Un travail qui s'est déroulé toute l'année et ils ont été accompagnés par leurs enseignants. Les élèves ont par exemple réalisé des mangeoires et des nichoirs pour les oiseaux ou encore ramassé des déchets en centre-ville dans la Ressouze.
À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM.
C'est la fin de la saison pour la JL Bourg.
L'équipe de basket s'est inclinée la semaine dernière en quart de finale face à Monaco, 91-72. Après un bon premier quart-temps, les hommes de Savo Vuzevic se sont rapidement fait dominer par les Monégasques. La JL prend donc la 5e place du classement de la Jeep Elite.
Le Tour de France de retour dans l'Ain ce samedi.
Pour la 8e étape, le départ se fera d'Oyonnax avec la présence de Simon Détieu, champion olympique en relais mixte de biathlon. Les coureurs partiront dès 13h pour le Grand Bornand en Haute-Savoie. Ils vont passer par la forêt d'Échalon et le pont de Bellegarde sur Valserine.
La nuit des musées, c'est aussi ce samedi.
Le 3 juillet dans l'Ain, vous pouvez aller au musée du Bugey-Valromey à Lochieux. Il organise un escape game à partir de 18h30 et aussi une visite à la lampe torche de l'exposition temporaire. C'est gratuit et il faut réserver auprès du musée du Bugey-Valromey. Tout le programme à retrouver sur nuitdesmusees.culture.gouv.fr.
Et c'est la fête de l'été à Bourg.
Samedi 3 juillet aussi, la mairie propose une multitude d'activités en plein air réparties sur l'ensemble de la ville. Vous pourrez tester un parcours d'obstacles ninja pour petits et grands, avenue Alsace-Lorraine, un labyrinthe végétal esplanade de la Comédie ou encore une séance de cinéma en plein air, place des bons enfants. Le centre-ville sera exceptionnellement piétonnisé de 5h à minuit et le réseau Ruby vous proposera à cette occasion ticket à 2 euros.
Le 30e anniversaire des Estivales de Broue aura bien lieu.
Organisé du 3 au 11 juillet, le festival d'art lyrique vous donne rendez-vous dans les cloîtres et l'église du monastère de Brou. Au programme, le Requiem de Mozart ou encore un récital humoristique d'Offenbach.
Une semaine dédiée au cirque à Bourg-en-Bresse.
Sur le pont, c'est le nom du festival de cirque et musique qui se tiendra du 2 au 11 juillet à Bourg-en-Bresse. Libre et gratuit, les spectacles se dérouleront à l'extérieur au square Louis-Parent au pont des Chèvres. Si vous n'habitez pas à Bourg-en-Bresse, des animations dédiées aux arts du cirque sont aussi organisées à Étré les mardis 6, 13 et 20 juillet. Une troisième édition de l'événement Un été sous chapiteau sera rythmée par des spectacles et des soirées cinéma.
Les jeudis du kiosque font leur retour.
Du 1er juillet au 2 septembre, un rendez-vous musical hebdomadaire vous est proposé au Square Simone Veil. Chaque jeudi à 20h, vous pouvez vous déhancher sur de la salsa, du reggae ou du jazz.
Ça roule dans mon quartier, c'est le 3 juillet au DIM.
Sur le parking du collège Victoire d'Aubier, le vélo est à la fête avec une parade dès 14h30 et une initiation au monocycle notamment. Un événement gratuit organisé par le Conseil citoyen des DIM, c'est jusque 17h. Toujours le samedi à Étré, c'est le festival Food Rural. C'est dès 10h et à 20h, retrouvez des concerts, buvettes et snacks sur place. L'entrée est payante entre 5 et 10 euros. En bref, nous avons un week-end bien rempli dans l'Ain, donc à vous de choisir.
Bourg-en-Bresse, peut-être prochaine capitale française de la culture.
La ville a déposé sa candidature pour l'édition 2024. C'est un label récemment créé par le ministère de la Culture. Il permet de valoriser les collectivités qui soutiennent les actions culturelles et le patrimoine. Tous les deux ans, une ville se verra attribuer ce titre.
L'invité de Radio B.
Prends ton pied, c'est l'événement sur la mobilité organisé à Simandre-sur-Suran ce samedi 3 juillet de 10h à 17h. Il est organisé par la Fabrique du Revermont, issue du MRJC, une association pour les jeunes en milieu ruraux, et aussi par Mon Village Bouge de Simandre-sur-Suran et Nivigne-et-Suran, un dispositif lancé par l'agglomération de Bourg-en-Bresse pour promouvoir une mobilité plus écologique. Et pour nous parler de la mobilité en zone rurale et de cet événement, nous accueillons en studio Maëlène Dano, bénévole à la Fabrique du Revermont. Bonjour Maëlène.
Bonjour.
Et Jacques Toulmonde de l'association Autobus et coordinateur de Mon Village Bouge. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Alors, est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez organisé cette journée ?
On a choisi d'organiser une journée sur la mobilité en milieu rural parce qu'on s'est rendu compte que c'était un sujet important, particulièrement pour les jeunes en milieu rural, parce que c'est vite contraignant la mobilité, parce que on est souvent dépendant de la voiture et dépendant de ses parents. Et donc, nous, on voulait mettre en avant ça et puis les alternatives qui existent pour les jeunes, mais aussi pour les familles dans le milieu rural, et puis surtout parler de transition écologique et mettre en avant notre dépendance au pétrole et pouvoir peut-être s'en séparer un peu.
Donc pour choisir cet événement, vous avez un peu fait le tour des habitants avec la Fabrique du Revermont. Qu'est-ce qui ressortait en fait sur les problématiques liées à la mobilité ?
On a fait un diagnostic de territoire pour savoir quels étaient les besoins en termes culturels, en termes d'emploi, en termes de mobilité aussi pour les habitants du territoire. Et du coup, leur proposer en retour un lieu qui répond à ces besoins. Le lieu de la Fabrique du Revermont, donc c'est un tiers-lieu culturel qui est géré par des jeunes mais aussi par les habitants du territoire. Et on s'est rendu compte pendant ce diagnostic que la mobilité était un sujet qui était mis en avant et qui était questionné sur comment on pouvait faire peut-être autrement et puis mettre en avant peut-être le train, les bus en milieu rural. Voilà, c'est ce qui est ressorti.
Et donc c'est surtout les jeunes qui ont du mal à se déplacer, à trouver du lien, à aller dans les villes.
Ce que j'en ai compris, c'est qu'on est vite éloigné de nos loisirs, on est vite éloigné de notre école par exemple. J'ai des personnes qui me faisaient remonter que c'était bien parce que pour les petits, on avait des écoles dans pratiquement tous les villages. Enfin, voilà. Et puis après, quand on arrive au collège, on est vite séparé de son territoire, on est vite séparé de ses amis qu'on avait quand on était tout petit. Et donc c'est un autre mode de vie qui est fatigant et peut-être un peu injuste par rapport aux urbains.
Et donc, qu'est-ce qu'ils demandaient, les gens? Est-ce qu'ils apportaient déjà des réponses? Est-ce qu'ils voulaient qu'il y ait plus de collèges vers chez eux? Ou est-ce qu'ils voulaient qu'il y ait plus de transports régulièrement?
Alors, il y a un peu les deux, en fait. Il y a l'idée d'amener les choses, par exemple, les activités culturelles, plus proches du territoire, plus proches des habitants. Et par exemple, nous, à la Fabrique, on a créé un bureau partagé pour que des auto-entrepreneurs ou des associations puissent avoir un lieu de travail qui soit proche de chez eux. C'est aussi ça, l'idée de la mobilité, c'est de ne pas faire de mobilité finalement, ou d'être plus proche de nos lieux d'activité.
Et donc pour cet événement Prends ton pied, plusieurs structures de la mobilité seront présentes, et notamment votre association Jacques Tout-le-Monde, l'association Autobus. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est son rôle?
Nous sommes depuis une petite dizaine d'années les avocats du covoiturage en périphérie de Bourg-en-Bresse. Dans chacune des voitures qui font la queue pour entrer en ville chaque matin, il y a 3 places vides. L'idée, c'est de transformer ces places vides en un transport de covoiturage au service de tous. Nous serons présents à Prends ton pied le samedi 3 juillet sous la forme d'un stand de Mon Village Bouge. En fait, c'est une initiative qui a été prise par 2 associations, Autobus, les avocats du covoiturage, et Bourg Nature Environnement, les avocats du vélo. L'agglomération du Grand Bourg est juste en observateur. Il y a 10 villages qui participent et sont éparpillés un petit peu tout autour de Bourg. Dans chaque village, il y a un groupe de personnes qui s'intéressent à la mobilité, qui est composé d'élus et de citoyens, et qui s'intéresse aux alternatives à la voiture. Alors ça peut être le vélo électrique, le covoiturage, le transport à la demande. Et ces groupes lancent des actions. Par exemple, on a fait récemment, à Journan, une sortie collective à vélo électrique pour apprendre à se rendre à Bourg, circuler à Bourg et revenir avec des vélos électriques. Ça a été un grand succès, c'était très sympa. Et ça va aider des gens à faire le pas d'employer le vélo électrique plutôt que la voiture. Et c'est une idée qu'on a piquée, en quelque sorte, au village de Jasseron, qui l'avait eu avant nous. Il y a donc des échanges de bonnes idées et également un petit peu d'émulation.
Vous essayez de promouvoir le covoiturage avec l'association Autobus. Concrètement, si on veut faire du covoiturage, comment on s'y prend en fait? Il y a des plateformes que vous conseillez?
Pour le moment, on est beaucoup plus prosaïque que ça. Ce que nous conseillons, c'est de parler à des collègues de travail et de parler à des concitoyens dans son village pour s'organiser entre gens qui se connaissent pour faire des tout petits groupes de covoiturage. Par exemple, à Simandre, une personne a constitué autour d'elle un groupe de 5 personnes qui s'organisent pour covoiturer ensemble. Voilà des choses qui marchent.
Et donc, si on devait résumer un peu les grands enjeux de la mobilité dans les milieux ruraux, ce seraient lesquels?
80% des gens qui habitent la campagne et qui vont en ville en voiture disent qu'ils préféreraient une autre solution. Donc la voiture, c'est simplement une obligation parce qu'il n'y a pas d'alternative. Or, à Simandre, il y en a des alternatives. Il y a le train, il y a des gens qui covoiturent, il y a le transport à la demande. C'est à 16 km de Bourg avec un vélo électrique, ça peut très bien se faire. La voiture, ça semble être une obligation, mais c'est surtout une évidence parce qu'on a l'habitude. Mais cette habitude, on l'a pris. Tout ça, c'est compliqué, mais on l'a construit, ça semble facile. Et donc, pour les alternatives, c'est la même chose. Il faut construire elles nous paraissent aujourd'hui difficiles, mais il faut construire ces alternatives et elles vont sembler à l'avenir plus faciles.
Moi, ce que je pense qui est important, c'est de pouvoir réussir à faire créer du lien et de la solidarité entre les gens pour éviter le solo, quoi. Enfin, la voiture solo. Et dès qu'on crée du lien, ça crée de l'envie. Ça permet aux gens, peut-être s'il y a des élus, ou en tout cas de mettre en avant politiquement le fait qu'on a envie de changer de mobilité et que peut-être les trains, on a envie qu'il y en ait peut-être plus d'aller-retour par jour, quoi.
Et vous sentez que ça commence à émerger, cette envie de se déplacer autrement que la voiture?
Ah, ça marche surtout très bien pour le vélo en ce moment. L'envie est liée. Ce qui est beaucoup plus difficile à développer, c'est la possibilité pratique de le faire. Et c'est vrai que le vélo, quand on habite, quand on a des trajets pas trop longs à faire, c'est pas si facile que ça, mais c'est faisable.
Et donc c'est ce que vous allez essayer de promouvoir dans la journée de ce samedi, le 3 juillet, Prends ton pied. Donc pour revenir un peu sur cette journée, Maëlène, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être 2-3 temps forts? Elle va être très remplie cette journée, mais si vous pouvez expliquer 2-3 temps forts pour donner envie aux auditeurs de venir.
Oui, absolument. Donc de 10h à 17h, une grosse journée qui commence le matin avec une randonnée pédestre entre la salle des fêtes de Chavannes et la salle des fêtes de Simandre où se passe l'événement. Et en parallèle, de 10h à midi, un atelier ludique qui s'appelle la fresque de la mobilité. Donc, c'est un jeu de cartes pour sensibiliser aux enjeux carbone de la mobilité des personnes. Donc ça, c'est un jeu qui a été créé par les Shifters. Une association. Et tout au long de la journée, donc de midi à 16h, on a des stands, donc un espèce de village associatif où on va pouvoir découvrir des associations, mais aussi des entreprises. Par exemple, l'association La Recyclette, qui ont un atelier mobile d'autoréparation de vélos. Donc on peut venir avec nos vélos et les réparer soi-même avec l'aide des bricolos. Et le soir, à 16h, nous allons accueillir un spectacle, les 12 travaux de bricolos et mécanos de la compagnie Ziganim. Donc c'est de la acrobatie sur vélo, donc c'est gratuit toute la journée et familial.
Un événement familial, il y a tout sur place, a priori on peut manger aussi.
C'est ça.
Voilà, donc c'est de 10h à 17h à Simandre-sur-Suran, à la salle des fêtes. Merci beaucoup d'être venus tous les deux dans le studio de Radio B. Merci Maëlène Dano, je rappelle que vous êtes bénévole à la fabrique du Revermont. Et merci Jacques Toutmonde, membre de l'association Autobus et coordinateur de Mon Village Bouge.
Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ce matin?
Ce matin, entretien de vélo, changement de chaîne, nettoyage de transmission.
On va d'abord commencer par faire la bague. D'accord? Vous voyez là derrière au fond, loin, il y a une vague.
En reportage avec Radio B.
Après des mois sans connaître la date de réouverture, le parc des oiseaux à Villars-les-Dombes a de nouveau reçu des visiteurs le 19 juin, quelques semaines avant la fin de l'école, des cours. Ce vendredi 25 juin, c'est le dernier jour pour cette classe de 4e du collège Yvon Moranda à Saint-Denis-les-Bourgs. Ils ont rendez-vous au pied de la tour panoramique avec le vétérinaire du parc.
Bon, vous connaissez le parc, vous êtes dedans. Très rapidement quand même sur l'origine du parc, parce que c'est intéressant. Éric Bureau, donc je suis vétérinaire au parc des oiseaux de Villars-les-Dombes. En fait, le parc a fêté ses 50 ans l'année dernière. Dans les années 60-70, la Dombe était peu connue. C'est une grande région de chasse et il n'y avait pas de réserve. Et des ornithologues ont convaincu le département de créer une réserve pour qu'il y ait un endroit un peu plus protégé dans la Dombe. Il n'en existait pas. Donc le département a acheté une propriété de 230 hectares et a décidé d'en ouvrir 10% au public. Ce qui était très novateur à l'époque, hein, ça ne se faisait pas. Ça s'était fait une ou deux fois aux États-Unis, mais voilà, c'est un genre de fonctionnement qui n'existait pas. Donc 10% ouvert au public pour faire de l'éducation à l'environnement, pour représenter des oiseaux, pour faire de la conservation. Et le reste étant une réserve totale, c'est-à-dire qu'on essaie sur la réserve de conserver au maximum la diversité de faune et de flore. Et la réserve n'étant ouverte qu'aux scientifiques. Et j'ai fait un grand monologue, donc si vous avez des questions.
Est-ce que vous soignez les oiseaux sauvages?
On n'est pas centre de soins pour les oiseaux sauvages. C'est très encadré. Hein. Donc il y en a qui arrivent, on les réceptionne, mais ils sont transférés sur des centres de soins dont c'est le métier.
Les espèces, elles sont menacées à cause de l'homme ou pas?
Oui. Il y a toujours eu des espèces qui ont disparu, il y en a toujours qui sont apparues. Mais la vitesse où ça va, beaucoup trop rapide pour une évolution normale. C'est principalement la disparition des milieux, soit pour pouvoir faire des terres agricoles, soit pour les exploitations, soit l'assèchement des zones humides, enfin voilà. Le pont a une question.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
De nous avoir accordé du temps.
Non, désolé pas que tu es en retard.
Non, mais pas de souci.
Je suis Nathalie Collat, professeure de français au collège Yvon Moranda.
Alors qu'est-ce que ça fait de refaire une sortie scolaire? Comment ça s'est décidé?
La décision a été prise il y a longtemps, mais c'était les conditions sanitaires qui étaient difficiles. Donc, il y a eu des points d'interrogation jusqu'au bout. On a poussé la sortie le plus longtemps possible. Donc on est le dernier jour de classe aujourd'hui et on est au Parc des Oiseaux.
Et pour les élèves, comment vous les trouvez?
Ça fait plaisir de les voir en dehors du cadre scolaire. avec bonne humeur, plein de plaisir, sortir enfin, refaire des choses normales, de la vraie vie.
Là, on va aller où, les gars?
Là, on va aux toilettes et après, on fait toute la partie gauche. Et à 15h, tu dois être là.
Ah non, là, on peut aller tout seul, là.
Ouais, et après, à 15h, tu dois être là au début.
Et si on revient plus tôt, est-ce qu'on peut jouer?
Ah, mais ça va, on a le temps, là, on a 2h.
Oui, on aura le temps, en vrai.
Alors, qu'est-ce que ça fait de refaire une sortie scolaire?
Ah, ça fait longtemps, du coup, bah, ça, c'est bien. C'est très, très bien.
Il n'y a pas trop de personnes qui le connaissent dans la classe, de ce que j'ai su. Et du coup, bah, qu'on le découvre tous ensemble, c'est bien.
On a vu des flamants roses, on a vu des kangourous, on a vu des manchots aussi. Il y avait pas mal d'oiseaux.
Les élèves repartent à la découverte des oiseaux et je retrouve Éric Bureau, vétérinaire du parc.
On reçoit environ 30 000 scolaires par an. L'année dernière, on n'en avait pas eu beaucoup. Et cette année, on est revenu sur des fréquentations qui correspondaient aux années précédentes, sauf qu'effectivement, avec l'ouverture tardive, ça la concentre sur une toute petite période. Donc on a des journées avec beaucoup de scolaires. D'habitude, c'est principalement... Enfin, ça commence en avril. Avril, mai, juin et début juillet, là, effectivement, ça s'est quand même beaucoup concentré sur juin et début juillet, quoi.
Le parc a été fermé pendant plusieurs mois avec les différents confinements. Est-ce que vous avez vu une différence de comportement des oiseaux quand ils sont seuls et quand il y a du public?
C'est quelque chose qui nous intéressait beaucoup. Sur les zones de reproduction, on se disait, maintenant qu'il n'y a pas de visiteurs, nous, on avait imaginé qu'ils reproduiraient là. On a essayé d'aménager là pour qu'ils reproduisent là tranquille. Est-ce qu'ils vont utiliser le volume différemment? Et en fait, ils se sont comportés exactement de la même manière que s'il y avait des visiteurs. Donc c'était plutôt satisfaisant pour nous, parce que on s'est dit, on s'est pas trop gouré. En ce qui concerne la faune sauvage, on a pas mal de petits hérons qui nichent sur le parc, différentes héronnières, les petits hérons garde-bœufs et gratte-garzette, là, ces petits hérons blancs. Et là, c'était intéressant, parce que du coup, comme il n'y avait pas de visiteurs dans les allées, eux, ils sont répartis différemment dans le parc, notamment à des endroits où ils ne venaient pas avant, parce que très proche des visiteurs. Ça, c'était l'année dernière. Les visiteurs sont revenus, donc comme ils avaient entamé leur cycle de reproduction, ils avaient des œufs, ils avaient des jeunes, ils sont quand même restés malgré le retour des visiteurs. On avait mis des petites protections pour... Et puis finalement, la reproduction s'est bien passée. Cette année, ils sont revenus sur les zones où finalement la présence des visiteurs est assez importante. Donc ils ont acquis un peu de confiance, entre guillemets, c'est pas le terme, mais le sentiment de sécurité qu'ils n'avaient peut-être pas forcément... les années d'avant et qu'ils ont acquis par la force des choses. Ça, c'est rigolo de voir ce changement. Mais on n'a pas eu confinement ou pas confinement, on n'a pas eu de plus ou moins de reproduction, quoi. C'est pas parce que l'année dernière, on aurait pu se dire avec le confinement avoir une explosion des naissances parce que les oiseaux sont tranquilles. Non, ça, ce côté-là, ça n'a rien changé du tout, quoi.
Est-ce que psychologiquement, l'humain fait du bien aux oiseaux?
Ça dépend vraiment des espèces. Là, on l'a vu avec le confinement. Je pense à des oiseaux comme des perroquets qui trouvent à manger relativement facilement dans les zones tropicales. Les périodes de recherche de nourriture sont très courtes. Ils ont des grandes périodes de repos. Donc ça a développé effectivement des besoins de s'occuper, des besoins cognitifs importants. Et c'est vrai qu'avec le confinement, avec beaucoup moins de visiteurs, quand les visiteurs sont revenus, le visiteur fait partie du milieu. Ça fait partie des choses qui les occupent, qui regardent, qui surveillent. Alors ça peut être les manchots aussi, les pélicans, ces espèces qui vivent aussi en colonie, qui ont besoin d'interaction.
On va y avoir les musicales du Parc des Oiseaux, donc les concerts.
Ouais.
Est-ce que la musique dérange les oiseaux?
Non. Alors on l'a beaucoup testé, parce que ça fait pas mal d'années qu'on le fait. On n'a pas eu d'oiseaux, ne serait-ce que déjà qui avaient peur, on n'a jamais eu d'accident. On n'a pas vu de changement de comportement dans la journée derrière des musicales. Alors, au début on a commencé doucement, puis petit à petit... Il y a des choses auxquelles on est très attentif, par contre, c'est les lasers, les choses comme ça. La lumière les dérange potentiellement plus que le bruit.
Donc on ne peut pas savoir s'il y a un artiste qui préfère plutôt qu'un autre.
Et une fois, mais c'était il y a très longtemps, alors je ne sais pas si l'intonation de la voix, mais on avait un chanteur basque qui était venu, et il y avait les Kea, mais alors là, ça a été un vrai concert. Il y a eu il y avait des allers-retours, c'était rigolo comme tout. Donc là, effectivement, alors je ne sais pas ce qu'il avait, ce chanteur basque. Mais là, les Kia, ils avaient interagi, c'était impressionnant. Ouais.
Le Kia, perroquet des montagnes originaire de Nouvelle-Zélande. À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
Et on se retrouve lundi prochain à 18h. Bonne semaine sur nos ondes.
Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Arnondi.